Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Vivante Église, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisque c'est le premier numéro que j'anime en 2026. Nous allons y reprendre et y poursuivre notre série d'émissions dédiées au Père de l'Église, ses personnalités et ses auteurs qui tiennent une place essentielle dans l'histoire du christianisme. Le présent numéro est consacré à Origène. Jusqu'alors, pour cette série d'émissions, je recevais le frère Édouard d'Ivry. Aujourd'hui, j'accueille un autre théologien, Daniel Vigne, docteur en philosophie, professeur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse et donc également docteur en théologie. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres. Bonjour Daniel Vigne, meilleurs voeux à vous aussi et merci d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence. Dans ce studio, vous connaissez bien parce que vous y êtes souvent venu.
Merci Éric et bonjour et bonne année aussi.
Si je vous invite pour cette émission, c'est parce que vous avez beaucoup écrit sur les pères de l'Église, et notamment sur Origène, dont vous êtes un véritable spécialiste, ce qui tombe bien. Je vais d'abord vous poser une question que j'ai posée précédemment au frère Édouard d'Ivry. Pourquoi est-il important de revenir aux pères de l'Église? Qu'ont-il encore à dire et à apprendre à un chrétien de 2026?
Oui, il y a comme toujours deux regards qu'on peut poser sur le passé. Et en l'occurrence sur le passé de l'Église, les premiers siècles de notre histoire, on peut dire c'est dépassé, n'est-ce pas, et se considérer comme juché plus haut que ces gens-là. Ou bien, et c'est mon approche, on peut considérer que ces siècles sont la période source de l'Église dans laquelle le génie du christianisme, comme dira Chateaubriand, s'est déployé en Méditerranée, en plus particulièrement dans l'Empire romain, mais aussi au-delà. Et de cela, les pères de l'Église, comme on les appelle, sont les grands témoins. C'est-à-dire qu'ils ont été la voix de l'Évangile, on pourrait dire, dans la société gréco-romaine, à partir aussi de la sagesse qui était celle des Romains et des Grecs de l'Antiquité. Ils ont assumé, ils ont rencontré, ils ont fécondé aussi cette civilisation. Et ça a donné naissance à cette immense aventure dont nous sommes les héritiers. Donc plutôt que de les voir comme des ancêtres caduques, je vois en eux des auteurs sources, des référents, des docteurs au sens large et au sens précis du terme aussi, c'est-à-dire dans leur communion, parce que c'est ça qui est important à signaler. Quand on dit les pères de l'Église, on a affaire à des auteurs divers, dans le temps, dans l'espace, dans les personnalités, dans les sensibilités. Et ce qui est miraculeux, on pourrait dire, c'est que sur l'essentiel, ces auteurs grecs, latins, syriaques, encore une fois d'époques très différentes, convergent, se renforcent l'un l'autre. Et c'est cette symphonie qui leur mérite le titre de père de l'Église, parce que l'Église aussi est symphonique.
Belle image. Aujourd'hui, c'est donc Origène qui est au centre de cette émission. Et même s'il peut paraître incongru de poser la question, est-ce qu'il est considéré comme un père de l'Église au plein sens de l'expression?
Alors au sens large, oui, bien entendu, on ne peut pas. Il n'y a aucun manuel sur les pères de l'Église qui ne parle pas d'Origène. Mais au sens précis, d'abord le titre de père de l'Église, le plus souvent, exige d'avoir été canonisé et d'avoir été en charge comme évêque. C'est le cas, effectivement, de tous les noms qui nous viennent à l'esprit, d'Augustin, à Basile de Césarée, Irénée, à Athanase d'Alexandrie et autres. Origène n'a pas été évêque. Il était prêtre, mais il n'a pas été évêque. Et d'autre part, comme je l'évoquais, il n'a pas été canonisé pour des raisons dont nous reparlerons tout à l'heure, malgré le fait évident que sa vie est sainte et qu'il a donné sa vie, cette vie, pour le Christ jusqu'au martyr. Pourtant, pourquoi le rattacher au Père? Parce qu'il est l'auteur chrétien des trois premiers siècles, dirons-nous, le plus abondant, le plus représentatif, génial à sa manière, auquel tous les pères de l'Église ultérieure, d'Orient et d'Occident, se sont référés. Il m'arrive de dire, Origène est en quelque sorte un père des pères. Si vous voulez, je ne dirais pas un grand-père, mais là encore, il a joué ce rôle source. Et les auteurs tels saint Ambroise, par exemple, en Occident ou en Orient, saint Grégoire de Nice, pour prendre deux grandes figures, avait lu Origène et s'efforçait de marcher sur ses traces. Donc, comme on le verra tout à l'heure, sur le plan d'abord de l'interprétation de l'écriture, il a eu un rôle absolument fondateur, et sur le plan théologique aussi, c'est-à-dire celui de la conceptualisation, enfin j'aime pas beaucoup ce mot, mais de la mise en forme, de la définition, on pourrait dire aussi, de la foi. Et là, c'est quelque chose dont nous reparlerons, c'est-à-dire sa rencontre avec la philosophie grecque.
Oui, on va y revenir effectivement à cet aspect, à ses influences, bien sûr. Bon, ce qu'on peut dire aussi, et on y reviendra également, c'est qu'il est considéré comme le père de l'exégèse biblique pour le resituer dans le temps et dans l'espace. Vous avez évoqué les trois premiers siècles. On va préciser l'époque et la région où il a vécu. Où est-il né? Dans quel milieu familial? En quelle année approximativement, bien sûr, comme à chaque fois qu'on parle de personnages qui ont vécu il y a très longtemps? Et quelle fut sa vie?
Alors, on est en Égypte, à Alexandrie, ce port donnant sur la Méditerranée, qui est une grande ville culturelle fondée par Alexandre, comme le mot le dit, et dont le rôle, comment dire, maritime et commercial avait donné lieu à de grands échanges intellectuels aussi. On sait la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui malheureusement avait brûlé à l'époque, mais déjà n'existait plus. Mais il y avait une effervescence à Alexandrie, de doctrine spirituelle, philosophique. Le judaïsme était présent aussi. Les juifs à Alexandrie occupaient une place importante. Et c'est dans ce milieu culturel très riche que grandit le jeune Origène, qui naît donc vers 185. On est encore au deuxième siècle, hein, fin du deuxième siècle, d'une famille qui n'était peut-être pas chrétienne par la naissance, mais qui en tout cas l'est devenue, puisque son père meurt martyr, son père Léonidès est arrêté, le jeune homme a environ 17 ans, on est en 202 dans la persécution de Septime Sévère. Alors c'est un épisode crucial, parce que entre ce fils et ce père, il y a une relation très forte dont nous parle Eusèbe de Césarée, le grand historien, dans son Histoire ecclésiastique. Il nous donne des détails très touchant, bouleversant même. Léonidès avait fait grandir son fils dans la foi chrétienne, donc Origène a sans doute été baptisé dans l'enfance, et lui avait transmis l'amour des Écritures. À un point que c'était, on pourrait presque dire, le père qui était devenu le disciple du fils. Et il était émerveillé de l'intelligence qu'Origène avait, déjà enfant, de la Bible. Et ce beau détail qui dit tout, d'après Eusèbe, il s'approchait la nuit de son enfant endormi et lui embrassait la poitrine en pensant que le Christ, le feu du Christ habitait déjà ce tout jeune homme. Alors imaginez, l'adolescent voit son père arrêté et il lui écrit un mot qui a été gardé par la tradition, « Ne renonce pas, ne renie pas à cause de nous ». Et même il a voulu le rejoindre.
Oui, c'est sa mère qui l'en empêche.
Et sa mère l'en empêche. Bon, et peut-être aussi le devoir familial, parce que de fait, Léonidès va être mis à mort.
Décapité devant son fils. Origène assiste à la décapitation de son père.
Et Origène devient chargé de famille
aujourd'hui.
Voilà, ce qu'on appellerait chargé de famille, d'autant qu'il avait, semble-t-il, aussi des frères et des sœurs. Donc, il doit assumer. Comme il a une capacité intellectuelle extraordinaire, il va exercer le métier de rhéteur, professeur si vous voulez, et très vite, alors on ne sait pas très bien à quel moment, mais va lui être confiée l'école catéchétique et théologique qui avait été fondée quelques années plus tôt à Alexandrie et qu'on appelait le didascalé. Il va devenir le didascal, ça veut dire le maître, l'enseignant, par excellence de la ville.
Il succède à son maître Clément d'Alexandrie.
Voilà, alors avec peut-être un petit battement entre les deux, et on ne sait pas très bien quelle relation Origène a eue avec Clément d'Alexandrie, s'ils se sont vraiment connus, mais il est le continuateur, ça c'est clair. Et Clément d'Alexandrie, qui est un autre immense auteur ancien, avait déjà inauguré, si vous voulez, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette rencontre du christianisme avec la culture ambiante, avec la philosophie. Il voulait relever le défi. Montrer que le christianisme, ce n'était pas une doctrine pour ignorants et pour petites gens sans culture. Au contraire, qui pouvait répondre aux objections des philosophes et faire valoir une vraie consistance intellectuelle. Donc Origène marche sur les traces de Clément, comme vous le disiez, et son école va se développé considérablement pendant les années qui suivent, au point que il confie une partie de l'enseignement à d'autres, lui-même se réserve les enseignements les plus avancés, et cette école devient une matrice du christianisme, non seulement pour Alexandrie, mais pour toute l'Égypte. Donc, si vous voulez, le rôle de phare intellectuel que jouait cette ville dans l'Antiquité, Origène va lui permettre de le jouer pour le christianisme.
Un épisode qu'on rapporte le concernant, est-il vrai ou pas, il aurait poussé sa morale personnelle, qui apparemment était très stricte, à demander la castration.
Jusqu'à la castration, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ?
On ne sait pas grand-chose.
C'est un peu obscur, cette
histoire. On n'a aucune certitude. Il est clair qu'il veut être eunuque pour le royaume, comme dit l'Évangile. Il reste célibataire. Il donne sa vie au Christ. Et,
il est ordonné prêtre.
Alors, il le sera un peu plus tard, mais dès sa jeunesse, on pourrait dire, cet idéal de consécration au Christ, qui a pu prendre peut-être une forme physique, je n'en sais rien. On fait remarquer à ce sujet que lorsqu'Origène commente la fameuse parole de Jésus sur les eunuques qui le sont pour le royaume des cieux ou par la main des hommes, Origène dit clairement, mais il n'y a pas à, comment dire, à provoquer physiquement, à faire un geste quelconque en ce sens. Mais le bruit a couru, et comme on le dira tout à l'heure, le reproche lui en a été fait beaucoup plus tard. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est plutôt que Origène vit à une époque où le célibat pour le royaume, et je dirais même les débuts du monachisme, en Égypte précisément, se font sentir. C'est pas pour rien que plus tard, Paul de Thèbes, puis Antoine le Grand, Pacôme, seront les premières grandes figures du monachisme, c'est-à-dire d'un don total de sa vie, de sa personne et de son corps au Christ et à l'Église. C'est plutôt comme ça, je crois, qu'il faut comprendre ce que vous évoquiez. Entre la jeunesse dont nous venons de parler et puis la mort, quelques mots quand même sur sa trajectoire. Les 25 premières années de son ministère, 25 ou 30, se situe à Alexandrie, dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure, celui du Didascalé. Il n'écrit pas beaucoup pendant cette période, mais déjà, il a une activité d'écrivain. Et il faut nommer ici un personnage qui est important dans la vie d'Origène, il s'appelle Ambroise, ce n'est pas Ambroise de Milan, le père de l'Église, c'est un homme riche, influent, sans doute ayant une responsabilité politique ou administrative, et qu'Origène a converti. C'était un ancien gnostique. C'était un ancien gnostique valentinien. La gnose étant, comme vous le savez, une hérésie. Origène le ramène à la foi droite, à la foi chrétienne. Et du coup, Ambroise met au service d'Origène toute sa fortune. Et finance un atelier de scribes, des secrétaires, des copistes.
C'est ce qu'on appellerait un mécène aujourd'hui.
C'est un mécène, tout à fait.
Et un protecteur.
Donc ça se joue déjà à Alexandrie, et Origène est tellement apprécié et renommé qu'il voyage en Méditerranée. Il voyage en Palestine, il voyage en Grèce, il voyage à Rome, il voyage en Arabie. Il est considéré comme un expert théologique, si vous voulez, tel que, par exemple, à plusieurs occasions, des synodes d'évêques font appel à lui pour clarifier tel ou tel point de doctrine. On a conservé un petit livre très intéressant qui s'intitule « Entretien avec Héraclide ». Héraclide était un évêque d'Arabie qui était soupçonné d'avoir une doctrine un petit peu pas conventionnelle, voire un peu douteuse. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, les évêques se réunissent, font comparaître le fameux Héraclide et demandent à Origène de l'interroger. Ce qu'Origène fait et clarifie tout à fait le sujet qui était touché à la théologie trinitaire. Et bien sûr, ce n'est pas lui qui prend les décisions, il n'est pas évêque, mais on s'appuie sur son jugement. C'est très significatif, voyez. Donc les voyages d'Origène reflètent, si vous voulez, l'ampleur de sa renommée, du respect qu'on a pour lui. Et puis arrive le fameux épisode, au début des années 230, d'un voyage en Grèce et en Palestine
oui.
Au cours duquel on lui demande de prêcher. Alors, il est très lié aux évêques de Césarée de Palestine, proche de la Haïfa actuelle, n'est-ce pas, et de Jérusalem. Voilà. Il a ses entrées, on pourrait dire, dans la terre de Jésus. Et pour légitimer le fait qu'on lui donne la parole en Église, comme prédicateur, les évêques de Palestine l'ordonnent prêtre. Il était jusque-là, je disais didascal tout à l'heure, c'est-à-dire c'était un titre très important dans l'Église des tout premiers siècles, n'est-ce pas, chez un Tertullien par exemple ou d'autres. Didascal, c'est, je disais tout à l'heure, expert, c'est maître au sens le plus fort du terme. Bon. Pour lui permettre d'avoir aussi une parole dans l'assemblée liturgique, il est ordonné prêtre, parce que certains peut-être disaient, mais est-ce qu'il peut faire une homélie en tant que didascal? C'est l'époque, il faut le dire, où le ministère didascal va s'estomper, voire disparaître, au profit du ministère presbytéral et surtout épiscopal. Et c'est dans ce contexte un peu complexe que, de retour en Égypte, Origène s'attire les foudres de l'évêque du lieu. Alors, pourquoi cette colère? Il y a plusieurs interprétations possibles. Peut-être aurait-il voulu lui-même l'ordonner, avoir l'honneur de lui conférer cet honneur. C'est pas impossible. Peut-être il y a eu de la jalousie, voire de la rivalité à l'égard des évêques de Palestine. Tout n'était pas forcément parfaitement harmonieux. Ça arrive dans la Sainte Église. Et donc, il y avait certainement quelque chose de cet ordre. Et puis peut-être, pire encore, peut-être Démétrios, puisque c'est son nom, cet évêque d'Alexandrie, a-t-il jugé que ça donnait un peu trop d'importance à ce didascal et que ça pouvait en quelque sorte lui faire de l'ombre? Qui sait? En tout cas, l'affaire prend des proportions étonnantes et Démétrios décide de déchoir Origène de ses fonctions. Alors il ne pouvait pas le déchoir de son ordination presbytérale, mais... il lui a rendu la vie tellement impossible. Il a écrit des lettres, Origène le signale, avec beaucoup de douceur d'ailleurs, en disant « ben voilà, c'était vraiment des lettres contraires à l'Évangile » qui le dénonçaient de partout. Bon, et lui rendant la vie impossible, il l'a en quelque sorte obligé à partir. Et Origène s'exile, nous sommes en 233 à peu près, quitte sa ville natale. Il laisse une partie de sa bibliothèque, il semble que le déménagement se soit fait un peu en catastrophe. Et trouve refuge à Césarée, où l'accueille, à bras ouverts, l'évêque du lieu, qui lui confie la même responsabilité, c'est-à-dire celle de Didascal. Et pendant les 20 ans qui suivent, jusqu'à sa mort en 253 ou 254, Origène va déployer une activité à la fois de prédicateur et d'écrivain extraordinaire à Césarée. On pourrait dire l'épreuve n'a pas tari son génie, au contraire, ça lui a permis de se déployer. Mais entre les deux, il est passé par un moment difficile.
Alors après ces premiers éléments biographiques passionnants déjà, c'est du général sur la vie d'Origène, nous allons faire une pause dans cette émission avant d'entrer dans le détail de son œuvre et de sa doctrine, de ses écrits. Et pour cet intermède musical, je vous propose d'écouter In Paradisum, le dernier chœur du Requiem de Gabriel Fauré. C'est une version de la Scola Saint-Sernin.
Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous voici de nouveau à l'antenne où je retrouve Daniel Vigne, docteur en philosophie et en théologie, professeur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse. Nous allons poursuivre cette émission consacrée à Origène dans le cadre de notre série dédiée au Père de l'Église. En première partie d'émission, nous avons évoqué essentiellement sa biographie. Alors, on n'a pas tout à fait terminé parce que nous n'avons pas évoqué sa mort et son martyre.
Oui, il a été arrêté dans les années 250 pendant la terrible persécution de l'empereur Dès. Il a été mis au fer et même Eusèbe de Césarée précise que jusqu'au troisième trou, c'est-à-dire extrêmement, voilà, on peut imaginer des chaînes qui le lacéraient, n'est-ce pas ? Et le but avoué était de le faire apostasier. Évidemment, s'il avait renié son christianisme, ça aurait été une victoire pour le pouvoir païen qui voulait impressionner l'Église et qui voulait dissuader les gens de devenir chrétiens. Donc, l'emprisonnement a duré longtemps et les tortures n'ont pas eu l'effet souhaité, souhaité par les bourreaux, je veux dire, puisqu'Origène a tenu bon. Peut-être au passage, on peut signaler qu'un des surnoms qui lui avait été donné déjà depuis sa jeunesse, c'était Adamantios, c'est-à-dire l'homme d'acier ou de diamant. Il avait une volonté extrême, cet homme. Et donc, eh ben, voilà, ils se sont heurtés à ce refus et il avait jeté en prison jusqu'à ce que la persécution cesse. Et semble-t-il qu'il ait été relâché, mais dans un tel état qu'il est mort des suites des blessures et des tortures subies pendant cet emprisonnement. Donc il n'est pas mort de mort violente, si vous voulez, comme on en a l'idée quand on pense à un martyr, mais si j'ose dire, c'est presque pire.
Oui. Une grande souffrance sans doute qui ont précédé sa mort. Alors on en arrive à ce que j'ai rappelé en début d'émission, c'est qu'il est considéré comme le père de l'exégèse biblique. Pourquoi a-t-il cette réputation et quels sont les principaux points de sa pensée, de sa doctrine, ses principaux écrits? Et peut-être on peut commencer par là, quelles ont été ses influences?
Alors, la grande influence, qui est plus qu'une influence, qui s'exerce sur Origène, c'est celle de la parole de Dieu. Il lit la Bible, je l'évoquais en début d'émission, il la connaît par cœur. Il habite ce texte ancien et nouveau testament avec une ferveur, une justesse, une finesse d'interprétation qui sont absolument extraordinaires et qui affleurent partout dans son œuvre. Il m'arrive de dire, Origène parle Bible, si vous voulez, c'est une langue pour lui, en sorte que si vous étudiez ses œuvres de près, même un petit texte, n'est-ce pas, et que vous cherchez les textes bibliques qui se devinent là derrière, vous en trouvez partout. Et quelquefois, même là où il semble que c'est une pensée qui vient de lui, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'elle est nourrie, irriguée par la parole de Dieu. Donc c'est un homme de la Bible. Après, du point de vue culturel, il vit dans cette société gréco-romaine, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est héritière des philosophes païens tels que, plus spécialement, Platon. Et Aristote, mais mettons l'accent ici sur Platon. C'est le platonisme et même ce qu'on appelle le néo-platonisme à l'époque d'Origène, qui est, je dirais, la pensée ambiante, tout ce qui se fait de meilleur sur le plan intellectuel. On pense à Plotin, par exemple, qui est un philosophe païen contemporain d'Origène et qui est un grand représentant de ce néoplatonisme, eh bien, ça s'enracine dans Platon. Et Origène, il baigne dans cette culture. Et il va, comme on le verra tout à l'heure, la christianiser. Il va s'efforcer de parler le langage des gens qu'il a en face de lui, mais en y mettant les mots de l'Évangile. Il y a aussi une influence philosophique d'un autre ordre, c'est celle du stoïcisme, qui s'exerce davantage sur le plan pratique. Si vous voulez, la philosophie au plan intellectuel, elle est platonicienne. Au plan éthique, au plan moral, au plan existentiel, elle est plutôt stoïcienne. Voilà les deux grandes influences. Mais tout ça, encore une fois, sous l'égide et l'autorité de la parole de Dieu.
Sa doctrine, quels en sont les principaux points?
Alors, je reste un petit peu encore sur l'exégèse, mais le mot exégèse fait un peu peur aujourd'hui. On a l'impression que c'est une discipline très scientifique, très critique. Si on entend le mot exégèse au sens propre, c'est-à-dire celui de l'interprétation, du dévoilement, on pourrait dire, de l'exploration. Alors, tout l'effort d'Origène, c'est d'explorer la parole de Dieu. Et c'est en ce sens qu'il est le fondateur de la science biblique, on pourrait dire. Et ça, si je peux le dire en quelques mots, mais c'est important, sur plusieurs plans. Le premier plan est d'ordre scientifique, au sens, alors pour le coup, textuel et matériel du terme, c'est-à-dire le texte de la parole de Dieu. Origène est le premier à s'interroger, à s'intéresser aux versions existantes de la Bible, parce qu'il y en avait plusieurs, notamment de l'Ancien Testament. On avait la Bible en hébreu, mais cette Bible en hébreu avait été traduite en grec, la fameuse Septante, voilà, qui était la Bible grecque la plus connue, mais il y avait d'autres versions grecques, n'est-ce pas, d'Aquila, de Théodotion, de Symmaque, qui différaient un petit peu de la Septante. Et Origène fait ce travail monumental de placer en plusieurs colonnes le texte hébreu, le texte grec, les versions grecques. On appelle ce livre les exaples. Malheureusement, oui, il est perdu. Les exaples, ça veut dire les six, un livre en six colonnes. Et minutieusement de comparer chaque mot de chaque version. Voilà. Alors la science biblique, au sens scientifique du terme, il en est vraiment le promoteur. Ça, c'est le plan littéral. Comprendre les textes dans ce qu'ils nous disent et tels qu'ils sont écrits. Après, il faut comprendre le message dont ils sont porteurs.
Et donc interpréter.
Et là, Origène est le fondateur de l'exégèse spirituelle des Écritures, c'est-à-dire de ce mouvement par lequel on entre dans ce qui est écrit pour comprendre ce qui est dit, pour écouter l'esprit qui inspire le texte, et soi-même, pour cela, se mettre comme en état d'être, sur les mêmes ondes, n'est-ce pas, la même fréquence que le Saint-Esprit, puisqu'il a inspiré le texte, il ne peut être compris que dans l'esprit. Et c'est là qu'Origène déploie tout son génie. C'est-à-dire que chaque texte de la Bible, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, sera pour lui lu à plusieurs niveaux de sens, qui ne s'excluent pas. Il faut comprendre d'abord le sens littéral. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est raconté? Et puis après, de là, aller vers des sens plus profonds. Qu'est-ce qui nous est enseigné par ce texte? Sur un plan moral, par exemple, si ça concerne la vie concrète, notre comportement. Sur le plan de la foi, des grandes vérités doctrinales. Sur le plan mystique, au plus haut niveau, voyez. Et donc, on voit se déployer cette pluralité de sens qui n'est jamais un système figé, c'est très souple, mais ça circule. Et Origène aime rebondir sur, par exemple, l'étymologie d'un mot, le sens d'un mot hébraïque. Alors, il va dire, tiens, ça veut dire ça, mais ça voudrait dire que on pourrait aller plus loin et comprendre, par exemple, le mot Noé, le nom de Noé, signifie « repos » en hébreu. Tiens, alors en quel sens Noé peut-il être pris pour une figure du repos, etc. Il aime aussi partir de la symbolique numérique, et on sait qu'elle est très présente dans, oui, la Bible. Il y a des chiffres qui font sens, qui font signe. Donc il rebondit là-dessus. Les Hébreux sortant d'Égypte, ils arrivent, dit l'Exode, à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Voilà, je ne vous fais pas un dessin.
Non.
C'est une image du paradis, c'est une image de l'Église aussi, avec les 12 apôtres, les 70 disciples envoyés par Jésus et surtout l'eau vive de l'Écriture. Donc tout fait sens. Et nous, modernes, qui avons un peu perdu le sens symbolique, nous sommes parfois un peu déroutés par cette capacité de faire jouer, si vous voulez, les textes les uns par rapport aux autres. Mais il le fait avec une puissance à la fois imaginative, parce qu'il faut cette sensibilité-là, et surtout spirituelle, et une justesse doctrinale qui sont absolument admirables.
Vous avez évoqué sa foi tout à l'heure, en tout cas ce qu'il écrit sur la foi, la sienne. Comment se caractérise-t-elle? Est-ce qu'on peut la définir, sa spiritualité, sa foi propre?
Oui, oui. Alors, je vais même faire un pas en direction de sa théologie, c'est-à-dire la structure de sa foi, qui s'exprime plus spécialement dans un ouvrage de jeunesse qui comportait quelques maladresses. Lui-même dit d'ailleurs, mais je fais pas une synthèse, une somme parfaite, je fais une théologie en recherche, comme il le dit. Zététikon, ça voulait dire, voilà, je tente. Et il tente dans cet ouvrage, donc le Périarchon, traité des principes, de résumer l'essentiel de la foi chrétienne. Et on comprend comment il se la représente. Il voit le christianisme comme le moment de l'histoire du monde dans lequel Dieu, qui a créé ce monde, va le ramener vers lui. Vous voyez, c'est un mouvement d'expansion, d'expression, de création d'une part, puis de réintégration, de communion, de sanctification d'autre part. Le monde vient de Dieu et va vers Dieu. Il s'en est éloigné à cause du péché. Mais Dieu a accompagné ce monde par les prophètes, par la révélation biblique et surtout, bien sûr, par la venue de son Fils. Et dans ce Fils qui nous donne l'Esprit Saint, nous autres, qui venons de Dieu, nous allons pouvoir revenir vers lui. Et c'est un schéma qui pouvait parler aux auditeurs d'Origène, voyez, qui fait sens. Parce que c'est quelque chose qui existait un peu dans la philosophie aussi. Dieu comme origine et Dieu comme fin. Mais évidemment, c'est chrétien chez Origène. Et ça s'appuie sur le mystère de la croix. C'est-à-dire que c'est par sa mort que le Christ nous sauve. Et ce bascule, c'est la conversion du monde qui s'opère à la croix. Eh bien, il nous faut chacun l'opérer. Et donc, Origène est un penseur de la conversion au sens fort. Être chrétien, ce n'est pas simplement appliquer quelques règles morales ou avoir quelques principes doctrinaux. C'est mettre ses pas dans les pas du Christ mort et ressuscité. Donc vous voyez ce mouvement qui nous précède, parce que c'est Dieu qui est venu à l'homme. Nous étions éloignés de Dieu, mais Dieu est revenu vers nous et nous ramène désormais à lui par le Christ et dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que cette théologie, elle est profondément trinitaire.
Nous avons évoqué en première partie d'émission son statut de père de l'Église, auquel il manque la canonisation. Alors pourquoi n'a-t-il pas été canonisé? On sait que, après sa mort, certaines de ses thèses ont été controversées, ce qui pourra expliquer qu'il n'ait pas été canonisé. Quelles sont les thèses en question? Qu'est-ce qu'on lui a reproché à un moment donné, à Origène?
Alors, l'affaire se joue plus spécialement autour des années 400, donc vous voyez, 150 ans après sa mort, autour d'un personnage par ailleurs admirable, qui est Saint Jérôme, qui avait beaucoup lu, beaucoup admiré Origène, et qui s'est beaucoup inspiré de lui d'ailleurs, puis... À un moment donné, dans un contexte de querelle avec certains auteurs et anciens amis de Jérôme, notamment Rufin d'Aquilée, il tourne sa veste, si vous voulez. Et il fait d'Origène une espèce d'ennemi contre lequel il s'acharne de manière un peu surprenante en lui reprochant, c'est difficile à résumer ici, mais le concile de Nicée, dont nous venons de fêter l'anniversaire, avait défini la stricte et parfaite égalité, consubstantialité du Père et du Fils. À l'époque d'Origène, environ 150 ans avant, d'abord, évidemment, le dogme de Nicée n'était pas formulé, et les relations du Père et du Fils étaient exprimées de manière un petit peu différente. Et à la lumière, ou plutôt à partir des définitions de Nicée, on a pu dire « mais Origène est contraire au concile de Nicée, donc il est hérétique ». On appelle ça « subordinationniste ».
Oui.
Tous les théologiens qui ont étudié sa thèse, sa théologie,
l'accusation constatent... ne tient pas debout, selon vous.
Non, il n'y a rien à lui reprocher sur ce plan-là. Après, l'affaire a rebondi au VIe siècle, dans les années 550, 553 exactement, à l'époque du concile de Constantinople II, que Justinien, l'empereur Justinien avait condamné. Le nom d'Origène est revenu sur le tapis, dans un contexte de négociation stratégique, assez complexe à résumer ici. En gros, Justinien a voulu faire un geste en direction du patriarcat d'Alexandrie, qui était très opposé à Origène, en leur disant « Ah, vous êtes opposé à Origène ? Eh bien, moi aussi. » Et même, Justinien, l'empereur, promulgue des anathèmes contre Origène. Ce n'est pas tout à fait son rôle comme empereur, mais enfin, il se joue théologien. Et ce concile de 553, parmi beaucoup d'autres condamnations, cite le nom d'Origène. Évidemment, ça ternit sa mémoire. Ce qui était en jeu, c'était des thèses qui n'étaient pas tant celles d'Origène lui-même que celles de certains de ses disciples qu'on appelle originistes et qui avaient un peu durci ses affirmations. L'étude des textes, l'étude des pièces, si vous voulez, du dossier, invite à relativiser très grandement cette condamnation, qui d'ailleurs n'est pas, dans les termes, une condamnation d'Origène lui-même. On dit « si quelqu'un dit que », sous-entendu comme Origène, qu'il soit anathème. Mais d'abord, est-ce que Origène le disait ? C'est pas sûr. Et même, à y regarder de près, le plus souvent, il ne le disait pas. Après, s'il faut rentrer dans le détail...
Non, parce que bon, on a pu reprocher ses thèses sur la création, sur la nature de Dieu, sur le salut aussi.
Alors, il y a deux points plus précisément qui ont été mis en cause et qui, comme par hasard, concernent les origines et la fin. La protologie, comme on dit, du côté de la création, et l'eschatologie du côté de la fin des temps. Côté protologique, Origène gardait l'idée qui était tout à fait banale à l'époque de préexistence des âmes par rapport au corps. Oui. C'est platonicien. En fait, par préexistence, il faut moins entendre une vie avant, une vie antérieure, qu'une transcendance de l'âme par rapport au corps. C'est ça qu'il voulait dire. Mais il prenait un peu le langage de son époque pour dire, en fait, l'âme se décide pour ou contre Dieu en amont de sa vie corporelle. En fait, le problème, c'est celui de la liberté. Origène est un théologien et un philosophe de la liberté. Il veut dire, c'est vraiment notre liberté qui, à la source de nos actes, fait que nous choisissons d'aller ou non vers Dieu. Et puis, à l'autre bout, du côté de l'eschatologie, il y a des passages d'Origène qui évoquent une espérance. Urs von Balthasar a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Espérer pour tous ». L'espérance d'un salut universel. Alors certains en ont tiré l'idée qu'Origène affirmait que le diable était ou serait sauvé. Jamais il n'affirme cette chose-là. Mais des textes pauliniens qui vont dans ce sens, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Même l'idée que les puissances seront asservies, soumises au Christ, qui récapitule tout l'univers, c'est dans cette ligne-là qu'Origène a prié, on pourrait dire, pour un salut universel, sans jamais affirmer qu'on était sauvés, on ira tous au paradis. Vous voyez, ça, c'est de l'ordre de la caricature.
C'est bien d'avoir abordé ce point et de l'avoir éclairci.
Je le crois.
On arrive à la fin de cette émission. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez plusieurs fois utilisé ce mot de source concernant Origène. Derrière Origène, on entend origine, et il reste aujourd'hui une référence majeure de l'Église catholique. Le pape Benoît XVI, par exemple, lui avait rendu un grand hommage.
Oui, dans une de ses catéchèses.
En 2007, je crois.
Tout à fait.
Si vous deviez conseiller la lecture de certains écrits d'Origène, lesquels faut-il lire en priorité ?
Ces homélies, alors c'est l'occasion de le dire, sont un peu ce qu'on a sauvé d'un naufrage, parce que beaucoup d'œuvres d'Origène ont été détruites lors de la crise origéniste, mais elles avaient été traduites pour une bonne partie en latin. Et donc on n'a plus le texte grec, mais on a notamment beaucoup d'homélies qui ont été traduites en latin sur l'Ancien Testament. Je conseille les homélies sur l'Exode, les homélies sur le Cantique des Cantiques et aussi les homélies sur la Genèse. C'est tellement beau. Commencez par là.
Merci beaucoup, Daniel Vigne, de nous avoir apporté toutes vos lumières sur Origène, personnage, auteur, père de l'Église, aussi fascinant que passionnant. Avant de conclure cette émission, je n'oublie pas de recommander la lecture du livre que vous lui avez consacré. Vous avez publié aux éditions du Cerf dans la collection Sources chrétiennes, Origène, traité sur la prière, votre traduction de ce traité. Puis vous avez écrit aussi beaucoup sur les pères de l'Église de manière générale. Je donne maintenant rendez-vous à nos auditeurs dans quelques semaines pour la suite de cette série. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À bientôt.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.